VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 15 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Gambie, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon insiste sur l'évacuation des locaux de la commission électorale indépendante par les forces de sécurité à Banjul.
En République démocratique du Congo, le dialogue politique sous la médiation de la CENCO se poursuit en commission. Retour du MLC dans ces discussions.
En République centrafricaine, la MINUSCA a déploré hier une augmentation croissante des violations des droits de l'homme. Des groupes armés ont causé depuis août au moins une centaine de morts.
À Alep, en Syrie, reprise des raids aériens et des violents bombardements.
Ici aux États-Unis, le président russe Vladimir Poutine est mis directement en cause, selon NBC, dans les piratages informatiques de la présidentielle du 8 novembre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Ban Ki-moon demande que les forces de sécurité gambiennes quittent les locaux de la commission électorale indépendante qu'ils avaient occupés la veille. Des détails avec Eddie Isango.
Le secrétaire général sortant de l'ONU a condamné hier l'intervention des forces de sécurité gambiennes contre la commission électorale indépendante de la Gambie. Il a demandé aux militaires et policiers de quitter immédiatement les locaux de la commission. Ban Ki-moon a appelé les forces de sécurité à s'abstenir des tout nouveaux actes qui menaceraient les efforts pour instaurer un transfert pacifique du pouvoir. Ces forces ont assiégé la commission électorale mardi pendant qu'une délégation des quatre chefs d'État africains s'est trouvée à Banjul pour convaincre le président sortant Yahya Jammeh de céder les pouvoirs à son successeur élu Adama Barrow. Pour Ban Ki-moon, c'est un manque scandaleux de respect de la volonté du peuple gambien et un défi à la communauté internationale. L'ONU demande au président Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow en janvier.
En République démocratique du Congo, poursuite du deuxième dialogue politique sous la médiation des évêques catholiques de la CENCO, les travaux qui ont repris mardi se déroulent présentement en commission. À noter le retour dans les discussions du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, dont le quota des délégués a été revu à la hausse. Cependant, la majorité présidentielle et l'opposition sont loin de s'accorder sur certains sujets, notamment la date des élections et le retour au pays de Moïse Katumbi-Tchapwe. Reportage de Gino Réhéman de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Trois commissions ont été mises en place, les commissions qui ont démarré les travaux mardi soir. Il s'agit des commissions gouvernance, institutions, élections et décrispation politique. Au niveau de la commission décrispation politique, toutes les questions sont discutées, comme la question liée à la fin de poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Magui Kiala est de cette commission.
Maintenant, nous allons statuer sur ça en âme et conscience, sans sentiment. C'est ce que nous voulons. Il faut que les Congolais apprennent à dire la vérité au peuple. S'il y a quelque chose qu'on me reproche, on le met sur la table. C'est comme ça qu'on doit parler. Ne mystifions pas les choses.
À la commission chargée des élections, les participants qui ont suivi attentivement le président de la CENI au sujet du calendrier et des séquences des élections cherchent à lever les options politiques. Martin Fayoulou est membre de cette commission.
Nous avons écouté la CENI. L'après-midi, nous allons revenir pour lever les options politiques. Et à partir de ces options, nous allons décider. En tout cas, nous, au Rassemblement, nous avons dit que les élections doivent avoir lieu en 2017. Ça, c'est un. De deux, il faut coupler l'élection présidentielle et les législatives nationales, comme ce fut le cas en 2011. Trois, ces deux élections auront lieu pour nous le 10 septembre 2017.
Jusque-là, les travaux vont bon train dans les différentes commissions, selon les dires des uns des autres participants, a signalé également le retour dans les discussions du MLC. Depuis Kinshasa, Gino Réhéman de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, la MINUSCA a déploré hier les violations des droits de l'homme que commettent des groupes armés et qui connaissent une augmentation alarmante depuis août, avec au moins une centaine de morts. Les principaux auteurs ont continué d'être des éléments des groupes armés anti-Balaka, ex-Seleka, la LRA et des Fulani, c'est-à-dire des Peuls, affiliés à des groupes armés, précise le rapport de la mission des Nations Unies. La Centrafrique peine à se relever des conflits communautaires qui avaient éclaté en 2013 entre les rebelles Seleka, prétendant défendre les droits de la minorité musulmane, et les milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes.
Inculpation hier en Ouganda de 152 personnes pour trahison, dont un souverain local. C'est à la suite des violences qui avaient fait au moins 87 morts fin novembre dans la région de Kasese, dans l'ouest du pays. Eric Manirakiza.
Selon leur avocat, le roi de Rwenzururu, Charles Wesley Mumbele, a été inculpé hier avec 151 autres personnes pour trahison par le tribunal de Jinja, à l'est de Kampala. Maître Evans Ochieng a ajouté que ses clients, dont le roi, nient les accusations et ont été tous renvoyés en détention. Le roi était apparu seul hier devant le juge qu'il avait inculpé pour terrorisme, vol aggravé et meurtre. Ces chefs d'inculpation sont passibles de la peine capitale au pays de Yoweri Museveni. Le 26 novembre, des gardes du souverain proches d'un mouvement séparatiste ont attaqué des policiers et prônent la création d'une république de Hira entre l'Ouganda et le Nord Kivu en RDC. La police avait interpellé le roi du Rwenzururu après l'assaut contre le palais royal pour mettre fin au combat. Le bilan officiel est d'au moins 87 morts, mais la population locale affirme qu'il y a eu plus de 100 morts.
Au Sénégal, des groupes français vont réaliser le train express de Dakar, un projet combinant l'électricité et le diesel et devant entrer en service fin 2018, ont annoncé l'État du Sénégal et les sociétés contractantes. Nanit Talani.
Les travaux du train express régional ou TER ont été lancés hier à Dakar par le président sénégalais Macky Sall. Le groupe énergétique français Engie a été mandaté pour conduire et piloter en partenariat avec Thales le TER dont le coût s'élève à 225 millions d'euros. Ce projet vise à désengorger Dakar, une agglomération de quelque 3 millions d'habitants confrontée à des problèmes de circulation et des embouteillages quotidiens. Le groupe ferroviaire français Alstom fournira 15 trains fonctionnant avec du diesel et de l'électricité. Cette ligne reliera à terme à une vitesse de pointe de 160 km/h le centre de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne de Dias qui doit être opérationnel en décembre 2017. Le train express régional devra desservir 14 stations en 45 minutes et la mise en service du premier tronçon reliant Dakar à Diamniadio est prévue pour fin 2018.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les raids aériens et les violents bombardements ont repris à Alep, semant la panique parmi les habitants de la deuxième ville du pays. Et les présidents russes et turcs ont souligné que les violations de la trêve devaient cesser. Jean-Roger Bion fait le point.
L'accord de mardi sous la houlette de Moscou et d'Ankara devait permettre l'évacuation des insurgés et des milliers de civils affamés et désespérés de pouvoir sortir de quelques quartiers encore aux mains des rebelles. Mais les violences ont repris de plus belle mercredi matin après une pause de plusieurs heures, poussant des habitants terrifiés à fuir à la recherche d'un abri. C'est ce qu'a rapporté un correspondant de l'AFP qui a vu beaucoup de blessés dans la rue alors que les raids aériens du régime se poursuivaient en fin de journée. La situation est horrible, a lancé le militant Mahmad Al-Khatib, contacté par l'AFP à Alep via Internet. Les blessés et les morts sont dans les rues, personne n'ose les retirer. Le bombardement continue, c'est indescriptible. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu lors d'un entretien téléphonique que les violations du cessez-le-feu à Alep devaient cesser, se disant prêts à reprendre dès que possible l'évacuation des civils et des rebelles, selon une source présidentielle turque.
Deux hauts responsables américains du renseignement cités par NBC News estiment que le président russe Vladimir Poutine s'est personnellement impliqué dans les piratages informatiques qui ont marqué l'élection présidentielle américaine du 8 novembre. Il a été motivé, disent-ils, par un désir de revanche contre la démocrate Hillary Clinton. Selon les deux hauts responsables, qui selon la chaîne NBC ont eu connaissance de cette information, Vladimir Poutine aurait lui-même donné les instructions sur la façon de filtrer et d'utiliser les messages dérobés aux démocrates après les piratages informatiques. Les mêmes responsables disent avoir un haut degré de confiance dans ces conclusions.
Par ailleurs, le groupe Internet Yahoo a admis hier avoir été victime d'une cyberattaque qui, en 2013, a frappé plus d'un milliard de ses utilisateurs. Cette attaque vient s'ajouter à un précédent piratage de 500 millions de ses comptes. Yahoo a indiqué ne pas être en mesure pour le moment pour le moment, d'identifier les auteurs de cette intrusion massive.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, John Linden.
Au Maroc, la première réunion s'est tenue avec des responsables nigériens sur le méga projet de gazoduc ouest-africain vers l'Europe. Les discussions ont porté sur la faisabilité et le financement du projet. Ce projet a été annoncé début septembre à l'occasion de la visite du roi Mohamed VI à Abuja, où il avait rencontré le président Muhammadu Buhari. 7 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres, c'est ce que la Banque africaine de développement va mettre à la disposition de 38 pays d'Afrique à faible revenu à travers le Fonds africain de développement. Ces fonds serviront justement à la réalisation des projets et des programmes de développement. L'Égypte vient d'augmenter ses droits de douane pour 320 produits d'importation afin de soutenir l'industrie locale et de réduire les dépenses en dollars, ce qui devrait lui rapporter un supplément financier d'environ 335 millions de dollars par an. Parmi les produits concernés figurent par exemple les produits laitiers, les chaussures de sport et les ventilateurs qui ont été majorés à 60%. Les dépenses des banques africaines dans les technologies liées aux services financiers atteindront 3 milliards de dollars en 2020. C'est ce qui ressort d'un rapport de la firme d'audit PricewaterhouseCoopers. 47% de la population mondiale seront nés à l'heure du numérique d'ici 2020 et auront accès à 20 fois plus d'informations qu'aujourd'hui.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Coupe du monde des clubs de foot, l'Afrique n'a pas pu sauver l'honneur.
Et dans le match pour la cinquième place, les Mamelodi Sundowns ont été sèchement battus 4-1 par les Sud-Coréens Jeonbuk Hyundai. Ils terminent donc sixième et dernier de cette compétition. La sensation hier lors de la première demi-finale est venue de l'équipe japonaise des Kashima Antlers qui a battu 3-0 la formation colombienne de l'Atlético Nacional.
Un match qui a vu une première, le premier penalty accordé par arbitrage vidéo dans une compétition FIFA.
Oui, puisque la FIFA, vous le savez, utilise pour la première fois lors de ce mondial l'assistance vidéo à l'arbitrage, et ce dans 4 cas de figure. Pour un but marqué, un carton rouge, un pénalty, ou s'il y a un doute sur l'identité d'un joueur à avertir, cette expérimentation doit durer 2 ans. La décision sera prise en mars 2018 par le président de la FIFA, Gianni Infantino.
La seconde affiche opposera tout à l'heure les Espagnols du Real Madrid aux Mexicains de Club América.
L'occasion pour la mégastar Cristiano Ronaldo de faire briller son 4e ballon d'or et d'oublier le scandale d'évasion fiscale qui l'entoure en Europe. Cristiano est très motivé pour ce match, comme toujours, a rassuré hier l'entraîneur des Merengues, Zinedine Zidane. Le Real s'est envolé pour le Japon sur un 35e match d'affilée sans défaite. Toute compétition confondue, un nouveau record pour la Casablanca qui peut aborder ce mondial des clubs sereinement puisque sur les 9 dernières éditions, le représentant européen a remporté 8 trophées. Sachez que les Espagnols sont privés de Gareth Bale qui soigne une cheville, mais également de Sergio Ramos qui sera laissé au repos ce jeudi.
Première CAN de beach soccer, résultat de la deuxième journée.
Oui, la CAN de beach soccer qui se déroule à Lagos au Nigeria. Les résultats de la deuxième journée, l'Égypte qui domine le Ghana 5-4. Match nul, 4 buts partout entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais ce sont finalement les Ivoiriens qui s'imposent 3-1 au pénalty. Dans le groupe A, le Maroc étrille la Libye 9-3 et le Sénégal domine Madagascar 3-1. Enfin, Idrissa, avec vous, les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto-Philadelphia 123-114, Charlotte-Washington 106-109, LA Clippers-Orlando 113-108, Indiana-Miami 89-95, LA Lakers-Brooklyn Nets 97-107, Cleveland-Memphis 85-93, Sacramento-Houston 98-132, Detroit-Dallas 95-85 et Oklahoma City-Utah 89-109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les ressortissants africains refoulés de Libye ont commencé à regagner leurs pays respectifs, passant d'abord par le Niger, notamment la ville d'Agadez. Et sur place, notre correspondant Abdelrazak Idrissa a rencontré quelques-uns d'entre eux qui lui ont raconté leur calvaire.
Chantal Mabiala, congolaise de 35 ans, et Kanga Kwasi Philippe, ivoirien de 46 ans, se souviennent encore des conditions horribles dans lesquelles ils ont été traités avant leur expulsion.
Je me levais au lit avec les pyjamas. On était dormis comme ça, aïe, aïe, aïe. C'est comme ça, on s'est retrouvés ici. Donc là où je suis foutu.
Ah, ça c'était pénible. Où je suis là, je n'ai même pas un rond. Tout mon argent, euros, près de combien d'euros? C'est resté là-bas, ils vont prendre ça. Pourquoi ?
Ce dimanche matin, dans une cour fermée à la sortie ouest de la ville d'Agadez, la plupart des près de 900 migrants rapatriés d'Algérie sont encore sous le choc. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils se sentent davantage humiliés que lorsqu'ils étaient traqués en terre algérienne pour être rapatriés. Kanga Mana et Edwige sont de nationalité camerounaise.
Je me dis, ce sont les Algériens ou bien c'est nous-mêmes qui sommes méchants. On n'a même pas prévu de nappe pour nous. Nous, on est plus que des criminels. On est gardés par la police, on ne peut pas... Sorti. Même s'il faut chier, tu chies devant ta fille, devant ton fils, devant tes sœurs. Moi, je ne traite même pas mon chien comme ça chez moi.
Moi, je suis enceinte. Quel suivi j'ai ici, je ne sais pas. Regardez là où une femme enceinte peut dormir, dans l'insalubrité totale. Sortir, te trouver de quoi manger, c'est impossible parce que nous sommes gardés comme des rats, je ne sais pas. Au moins ici, nous sommes en Afrique noire. Pourquoi vous aussi, vous nous traitez comme ça? Il n'y a pas que l'Algérie, il y a vous aussi.
Sur ces conditions de transit, le président du conseil régional des élus de la région d'Agadez, Mohamed Anako, s'explique.
Il n'y a pas un cadre qui est créé pour recevoir des migrants refoulés. Donc, normalement, l'OIM, qui est un grand centre au niveau de la sous-région, doit accueillir ces personnes-là.
Ça n'a pas été fait.
Mais si ça a été fait, est-ce qu'ils seront dans ces conditions? Parce qu'il y a de gros moyens. L'OIM a de gros moyens. On ne sait pas là où il met ces moyens-là.
Depuis le 12 décembre, ces expulsés sont acheminés à Niamey, d'où des véhicules les prennent chacun pour son pays d'origine. Abdelrazak Idrissa à Agadez pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Burkina Faso et la Tunisie ont été choisis, de même que le Sri Lanka, pour bénéficier du nouveau partenariat du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Il s'agit de subventions quinquennales dont le but est de promouvoir le développement économique et de réduire la pauvreté. Quels ont été les critères qui ont conduit au choix de ces deux pays africains ? Bagassi Koura a joint ici à Washington Maïté Hostetter, chargée d'analyse au Millennium Challenge Corporation.
D'abord la liberté économique, après ça l'investissement dans le capital humain et aussi la bonne gouvernance.
Concernant le Burkina Faso, qu'est-ce qui vous a le plus séduit ?
Même si le Burkina Faso a vraiment traversé une période assez difficile, ils ont vraiment bien renforcé leur processus démocratique, spécifiquement avec les élections bien réussies en 2015. Et on était vraiment contents de voir une tendance positive à travers le temps pour le Burkina. Ils ont bien réussi la mise en œuvre du premier compact, qui est un critère. Ils ont aussi montré des tendances très positives sur la feuille de route à notre critère. Et le Burkina Faso s'engage vraiment fermement en faveur des réformes sectorielles et nous sommes très encouragés par ceci.
Et en ce qui concerne la Tunisie ?
Donc la Tunisie, effectivement, cette année, nous avons vu qu'ils ont vraiment, déjà sur la feuille de route, ils avaient une très bonne performance, spécifiquement sur les droits civils et les droits politiques, et aussi le combat de la corruption. Le MCC, le conseil d'administration, s'est dit que vraiment, il y avait cette très bonne performance d'un côté, mais aussi la Tunisie nous offrait une opportunité d'engagement pour vraiment travailler étroitement avec la Tunisie pour faire face aux nombreux défis en tant que la pauvreté et l'inégalité dans le pays.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant que ces pays ont été choisis ?
L'équipe MCC qui gère les programmes Contact va aller sur le terrain, engager avec leurs homologues au sein des ministères, du gouvernement, pour commencer le lancement du processus du développement du Contact. Ceci entame aussi des études économiques qui regarderont vraiment les contraintes à la croissance économique et à la pauvreté dans ces deux pays. Tout cela va commencer un processus qui va durer plusieurs années, où on va développer un investissement qui devra après être soumis au conseil d'administration pour une validation finale avant de commencer.
Le Burkina Faso et la Tunisie sont deux pays qui sont aussi confrontés à des problèmes de sécurité, notamment le terrorisme. Est-ce que c'est un secteur qui est aussi pris en compte?
Nous nous rendons bien compte de la situation sécuritaire dans ces pays. Et nous prenons ça en considération aussi, comme les autres acteurs du développement.
En Centrafrique, et nous y reviendrons tout à l'heure, d'abord, c'était Maïté Hostetler, chargée d'analyse au Millennium Challenge Corporation, ici à Washington.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
République centrafricaine maintenant, environ 150 participants sont attendus pour la première concertation sur la chefferie traditionnelle dont les travaux s'ouvrent demain à Bangui en présence du président Faustin Archange Touadéra. Des explications fournies à Félix Yapasizembro par Evelyne Adam.
La tenue d'une concertation des chefs traditionnels à Bangui répond à un constat que nous avons fait, c'est qu'à Bangui, nous avons cherché pour la résolution de la crise en Centrafrique tous les moyens de résoudre la crise, sauf de regarder nous-mêmes dans nos traditions. Est-ce qu'il y a des réponses véritables pour résoudre les crises? Nous pensons que la réponse est oui. Il faut faire un retour aux sources, chercher dans nos sources si nous avons les moyens de pouvoir résoudre nous-mêmes nos crises. C'est ainsi que nous décidons, en tout cas, de faire la concertation nationale avec les chefs dans un symbole, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, c'est le centre de l'Afrique.
Quel cadre juridique est préconisé pour la chefferie traditionnelle?
C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de cadre, parce que l'ordonnance qui est présente en Centrafrique, c'est une ordonnance qui date de la colonisation. Donc ce que nous sommes en train de chercher à faire avec le ministère de l'Intérieur, c'est de voir comment est-ce qu'on peut proposer une nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui va redynamiser justement la chefferie traditionnelle en Centrafrique.
Quel rôle la chefferie traditionnelle pourra-t-elle jouer auprès de l'autorité de l'État?
Ce que la chefferie traditionnelle faisait quand c'était le Centrafrique. La chefferie traditionnelle, les chefs étaient les garants du patrimoine. Les chefs étaient les garants de la paix. Les chefs étaient les garants du bon vivre ensemble. Et la meilleure manière de justement gérer nos villages, la meilleure manière d'inculquer à nos jeunes les notions de citoyenneté, du respect de la hiérarchie, c'est d'abord de donner ce pouvoir-là à nos chefs pour qu'au plan local, ils puissent pouvoir gérer leur localité.
Cette concertation est une grande première, c'est la toute première concertation en Centrafrique?
Oui, c'est une grande première en Centrafrique. C'est pour ça que nous sommes heureux de voir que nous avons l'appui du gouvernement centrafricain qui, avec tous les ministères, nous appuie véritablement. Nous avons l'appui aussi de certains bailleurs tels que de HR, le PNUD. C'est vraiment une grande première en Centrafrique. On espère que cela donnera les résultats escomptés.
Elle regroupera cette concertation tous les chefs traditionnels du pays, de la République centrafricaine?
Nous n'aurons pas tous les chefs traditionnels, mais nous aurons les plus représentatifs et ceux qui ont pignon sur nous. Donc nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de nous aider dans ce débat.
Jointe à Bangui, Evelyne Adam.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La conservation de la nature au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, est devenue une importante question. Les ONG et la population se lancent dans la protection de la forêt, surtout la flore du parc national de Virunga. C'est devenu une affaire de tous, nous dit notre correspondant sur place. Elle va de la fabrication de brasiéraux, presque écologiques, à la création de forêts pour la production légale de charbon de bois, afin de satisfaire les besoins en combustible des ménages. Ces efforts sont accompagnés par le WWF, Fonds mondial pour la conservation de la nature, qui appuie planteurs et entrepreneurs locaux. De Goma, capitale du Nord Kivu, reportage de Charlie Kasereka.
L'objectif pour ces planteurs, c'est d'éloigner loin des espaces protégés comme les parcs et les consommateurs, question de conserver sa flore, aujourd'hui menacée par des milices armées et les braconniers. Pour cet espace de 5 hectares, environ 6000 arbres pour cette période culturelle, M. Michel Otemwami gère la coopérative des planteurs d'arbres.
Nous sommes à plus de 700 planteurs. Nous faisons la coupe qui est rationnelle. Parce qu'il y a un principe qui parle de quoi ? Celui qui déboise, reboise. Mais le nombre qui partait au parc en 2012, ce n'est pas le même nombre qui exploitait le parc. Parce qu'actuellement, ce sont les groupes armés étrangers qui exploitent le parc, les FDLR.
Avant de quitter la cité, M. Michel tient à nous montrer les produits finis de leurs champs, les charbons de bois appelés communément makala, une substance utilisée dans les ménages pour la cuisson. Ici, un petit marché vient d'être ouvert pour écouler ces charbons de bois produits légalement et avec la politique de la conservation de la nature par les reboisements après déboisement.
Donc ici, c'est le marché local des sacs de makala. Donc ce sont des femmes détaillantes qui viennent prendre nos makala pour faire des tailles pour ravitailler la population locale ici en énergie. Un sac ici, c'est pour 16 dollars.
La ville de Goma consomme à elle seule plus de 150 000 tonnes de charbon de bois chaque année, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la conservation de la nature, WWF, et plus de 90% de ces produits provenaient du parc de Virunga, où les milices et les braconniers l'exploitaient clandestinement. Thierry Lusenge, chargé des programmes énergie durable à WWF pour l'Est de la RDC, explique ici les défis, mais aussi les réussites pour leurs projets d'accompagnement.
Pour satisfaire les besoins en combustible, charbon de bois, bois de chauffe, il faut arriver à reboiser plus de 40 000 hectares. Et là, nous ne sommes qu'à 10 000 hectares. Ça, c'est seulement augmenter l'offre, mais nous agissons aussi sur la demande. On est en train de promouvoir des foyers améliorés pour réduire la consommation de charbon de moitié.
Parallèlement à cette politique de reboisement, les artisans locaux, particulièrement les femmes, s'emploient dans la fabrication des foyers améliorés, des braseros qui diminuent de moitié la consommation des charbons de bois dans des ménages. Dans cette unité de production que nous avons visité, une cinquantaine de femmes fabriquent depuis 10 ans ces braseaux. Yoari, la trentaine, mère de 3 enfants, est l'une d'elles.
Je suis satisfaite car non seulement je contribue à la protection de l'environnement, mais aussi je gagne chaque mois 40 dollars qui m'aident pour les besoins de base de ma famille.
Aujourd'hui, les ONG et la population locale pensent avoir tracé le chemin pour lutter contre la coupe illégale d'arbres dans les parcs de Virunga. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
On continue la série de VOA Afrique sur la crise de l'eau à Flint dans le Michigan avec Nastasia Peteuil. Nastasia a rencontré le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, accusé d'être le responsable de cette crise.
C'est la voix du gouverneur du Michigan, Rick Snyder, qu'on entend. Il sort tout juste d'une réunion. Deux questions lui sont posées, le calendrier pour le remplacement des canalisations et le prix de l'eau.
Je pense que c'est une discussion saine et cela montre comment on peut avoir un système pour le long terme qui va fonctionner et comment nous allons parler des nouveaux tarifs. C'était une bonne discussion.
Rien qu'à entendre le nom du gouverneur, de nombreux visages se crispent à Flint. Pour les habitants, il est en partie responsable de la situation. Un journaliste de Michigan Radio a suivi la crise depuis les débuts. Steve Carmody explique pourquoi le gouverneur est accusé d'être la source du problème.
Snyder est de plus en plus isolé, car beaucoup de gens le montrent du doigt. Il a nommé l'administrateur d'urgence qui a pris la décision de faire le changement, et il a aussi nommé l'administrateur qui a continué à faire le changement malgré les problèmes.
Pour l'instant, 9 employés de l'État ont été accusés d'avoir caché l'ampleur du problème. Mais le procureur, dans ses poursuites, ira-t-il jusqu'au gouverneur lui-même ? Pour Steve Carmody, rien n'est encore certain.
Si vous regardez parmi les gens qui ont été inculpés, ça commence tout en bas de la hiérarchie et ça remonte vers le haut. Jusqu'où cela ira-t-il ? Nous ne le savons pas encore.
Les habitants de Flint accusent l'État du Michigan et le gouverneur de n'avoir pas réagi efficacement face à la crise. Des militants viennent de poursuivre en justice le Michigan pour le forcer à fournir des bouteilles d'eau dans toutes les maisons. Mais l'État a fait appel.
Merci, Nastasia. Demain, dernier épisode de notre série sur Flint, nous irons à la rencontre de deux pasteurs au cœur du combat. Et vous pouvez retrouver le reportage de Nastasia Pétain sur notre site www.voafrique.com. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique.